Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je vais partager mon micro avec Marion, que vous pouvez retrouver sous le pseudo @marionwebdesign sur Instagram, et on va vous parler de branding pour les profs de yoga. Notre objectif à travers cet épisode, c'est de vous donner un plan d'action concret et activable immédiatement pour créer ou repenser votre marque, une marque unique et magnétique pour attirer vos élèves et futurs clients. Alors, on pense souvent à tort que créer sa marque est un concept réservé aux grandes entreprises ou encore que c'est une histoire de logo et de palette de couleurs uniquement. Or, j'ai pu constater qu'une image de marque non alignée est l'une des raisons pour lesquelles une offre de yoga en ligne peut ne pas se vendre, car on ne fait pas vivre émotionnellement ni visuellement à notre audience ce qu'elle a envie de ressentir par rapport à notre thématique. C'est pourquoi j'étais vraiment ravie que Marion me propose cet épisode afin de vous éclairer sur cet aspect de votre business. Vous allez donc découvrir dans cet épisode ce qu'est concrètement le branding, les quatre principales erreurs que font les profs de yoga, dont l'ego branding, pourquoi le personal branding est adapté pour les profs de yoga et la notion de branding holistique, et enfin les cinq étapes concrètes pour créer votre marque en tant que prof de yoga avec une branding checklist activable immédiatement. Prenez de quoi noter, cet épisode est vraiment passionnant et straight to the point comme j'aime. Alors sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Marion. Bonjour Marion, bienvenue chez moi, je suis ravie de t'accueillir sur YogiBiz Podcast.
Eh ben, bonjour Cécile, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, je suis très heureuse d'être ici.
Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment apprendre plein de choses avec toi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Marion, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais?
Oui, bien sûr. Alors, je suis experte en branding et web designer. Et mon métier, en fait, c'est d'aider les coachs, les entrepreneurs à créer une marque magnétique et rentable, et de A à Z, donc de leur stratégie à leur site internet, en passant par leur identité visuelle et Instagram. Et je travaille beaucoup dans le domaine du bien-être et j'aime beaucoup travailler avec des marques qui ont un impact. Et par exemple, j'ai travaillé pour des coachs, des naturaux, des profs de yoga, des psychologues, etc. Et moi aussi, je pratique le yoga vinyasa, et j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà.
Ah, super, c'est hyper intéressant, et surtout, je crois que t'es au bon endroit, puisque comme t'aimes les gens, les marques qui ont de l'impact, je crois que voilà, c'est exactement, oui. Les profs de yoga, c'est exactement ça. Alors, t'as parlé d'un petit mot, branding, donc un mot, oui, qu'on entend un petit peu partout, qu'on voit souvent. Moi, j'aimerais bien justement qu'on en profite d'être avec toi pour un petit peu savoir, voilà, c'est quoi finalement un branding? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot?
Alors, le branding, donc, c'est un mot anglais. Brand, en anglais, ça veut dire marque. Et une marque, en fait, c'est ce que l'on dit de vous. Et le branding, ce sont toutes les actions qui vont permettre de modeler votre marque telle que vous souhaitez, vous, que l'on vous perçoive sur votre marché. Donc, pour être un peu plus concrète, on va prendre une marque que normalement tout le monde connaît qui s'appelle Netflix. Et Netflix, ils ont un super branding. Parce que, par exemple, quand on allume sa télé, qu'on lance Netflix, on a à chaque fois ce logo rouge et noir. Et du coup, ce symbole-là, Netflix, ils ont bien réussi à l'intégrer dans notre esprit. Et ça, c'est la résultante d'un travail de branding. Pareil, Netflix, ils ont un message qui est super clair, qui est « Netflix and chill ». Et en fait, Netflix, tous les visuels qu'ils utilisent, ce sont, je sais pas, des familles, des couples dans leur canapé, en mode chill, prêt à passer un bon moment devant Netflix. Et en fait, ils ont réussi à associer le mot détente, le mot chill, au mot Netflix. Et ça, c'est super puissant. Et ça, c'est clairement ce qu'on appelle un travail de branding. Et encore plus loin, pour aller encore plus loin, Netflix, ils ont même réussi à créer un propre son à leur branding, le fameux le toudoum que l'on entend là quand on lance la télé. Et ça, c'est super fort parce que ça va appuyer davantage leur reconnaissance de marque. Et à contrario, si on prend un concurrent direct de Netflix qui est Amazon Prime, Amazon Prime, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à créer un branding fort parce que personnellement, je n'arrive pas à associer un sentiment, une émotion lorsque je pense à Amazon Prime. J'arrive même pas à voir à quoi ressemble leur logo. Alors que Netflix, dès que je pense à Netflix, ça me met directement dans un état de détente, rien qu'au fait d'y penser. Donc voilà. Donc en fait, le branding, c'est réussir à transmettre votre message et de créer une connexion émotionnelle avec votre audience pour leur donner envie de travailler avec vous, d'acheter chez vous, etc. Et pour un prof de yoga, c'est super important parce que en fait, en tant que prof de yoga, on doit réussir à créer une marque autour de son activité qui permettent de toucher émotionnellement son audience et qui transmettent clairement la promesse, la transformation, etc., que vous promettez à vos clients au travers de vos offres. Donc, le branding, c'est pas réservé qu'aux grandes marques comme Netflix, Coca et compagnie, parce que justement, dans un marché qui est hyper concurrentiel, par exemple, le marché des profs de yoga, il est hyper concurrentiel, travailler son branding en profondeur, ça va vous permettre, en fait, de vous démarquer.
Exactement, c'est ce que c'est d'ailleurs le titre de l'épisode, hein, se démarquer effectivement grâce à son branding. ça fait partie des cartes pour se différencier. Et du coup, donc est-ce que comme tu travailles pas mal dans le milieu du bien-être, etc., est-ce que tu as pu remarquer, recenser des erreurs justement peut-être que on a tendance à faire ou que les profs de yoga ont tendance à faire avec leur branding?
Oui. Alors bon, déjà le branding, hein, c'est un mot qui fait peur, mais souvent vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous souhaitez être perçu par votre audience, sans nécessairement savoir que vous avez déjà fait un travail de branding. Je pense par exemple à Harmony, qui est une coach sportive que j'ai accompagnée. Quand elle est venue me voir, elle voulait créer son site internet, son logo, etc. Et elle m'a clairement dit: Marion, je vais être perçue comme ça, comme ça, comme ça, et je ne veux pas être perçue comme une marque, no pain, no gain, je sais plus trop ce qu'elle m'avait dit, mais voilà. Et en fait, dans sa tête, elle savait clairement la manière dont elle souhaitait être perçue par son audience. Donc, finalement, elle avait déjà réfléchi à sa stratégie de marque sans même pouvoir mettre un mot dessus. Donc, du coup, le branding, ce qu'il faut retenir. En fait, le branding, il faut retenir la règle des 3 C. Clarté, cohérence, constance. Donc, l'erreur numéro 1 que souvent je vois, c'est un manque de clarté sur ce que sa marque représente et à qui l'on s'adresse. Donc ça, je sais que toi, tu en parles beaucoup dans ta formation Yoga Design, mais en gros, quel est votre message avec votre marque et quel client, quel élève vous souhaitez adresser? Le fameux élève idéal dont tu parles très, très souvent. Et donc, voilà. Et donc, en fait, par exemple, pour savoir si vous, ça, c'est clair pour votre audience, vous pouvez, par exemple, si vous avez un compte Instagram, ouvrir votre compte Instagram, regarder votre bio et les 9 premiers posts de votre flux de publication. Et là, il faut vous demander si votre audience, elle comprend clairement ce que vous faites et à quel type de personnes vous vous adressez. Donc, ce soit dans les images que vous avez postées, mais également dans le descriptif de votre biographie. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que, voilà. Donc, du coup, l'erreur numéro 1, le manque de clarté. L'erreur numéro 2, du coup, c'est la cohérence. Donc, un manque de cohérence sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc, tous les supports de communication sur lesquels vous allez déployer votre branding doivent parler à votre place. Donc, le choix de vos messages, qu'ils soient écrits ou oraux, vos photos, vos couleurs, vos typos, etc., doivent retranscrire parfaitement l'univers de votre marque tel que vous souhaitez qu'il soit perçu par votre audience. Donc, prenons un exemple. Mettons qu'on arrive sur votre compte Instagram, que la première image, c'est une pose un petit peu compliquée. La deuxième image, je sais pas, c'est un post qui parle de chakras, etc. Et la troisième image, vous parlez de Kundalini, Pranayama, vous utilisez des mots en sanskrit, ok, mais que votre cible, ce sont des débutants. Du coup, vous comprenez qu'il y a clairement un manque de cohérence entre votre cible et ses besoins et l'image que vous, du coup, vous renvoyez avec votre compte Instagram. Donc, du coup, là, la personne qui arrive, qui est débutante, finalement, c'est votre cible. Mais quand elle va regarder la manière dont vous communiquez, vos mots, vos visuels, etc., ça va la faire fuir parce qu'elle va pas se sentir concernée. Elle va dire « Ah non, ça, c'est pour les pratiquants avancés ». Donc, du coup, vous allez perdre malheureusement un potentiel client. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une cohérence.
Par rapport à cette cohérence, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde aussi souvent dans la promotion de ces offres, mais également, comme tu le dis très justement, dans ce qu'on met dans son contenu, le fait d'utiliser le langage de mon audience, de ma cible, au moment où je m'adresse à elle. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que je m'adresse, comme tu le dis très justement, à des débutants, à des avancés, à des gens qui sont déjà peut-être plus, par exemple, dans la spiritualité ou autre. Et donc, c'est vrai que je capitalise beaucoup sur les mots qu'on va utiliser et éviter d'utiliser un langage d'expert, surtout, effectivement, et donc bien savoir où est-ce que je veux, à quel moment de son parcours, de son chemin, de sa problématique, je veux capter mon audience pour utiliser des mots et des mots en l'occurrence qu'elle va comprendre. Et puis au niveau des images, donc t'as parlé par exemple de photos. J'avais d'ailleurs enregistré un épisode avec Delphine de Yoga Photorama qui l'exprime aussi très bien. Oui. C'est-à-dire que la photo de yoga entre autres, si c'est une photo d'une posture ou quoi, doit effectivement directement faire le lien avec ce qu'on enseigne et non pas être une photo un petit peu peut-être même plus personnelle sur une posture avancée ou quoi, mais si c'est pas ce que j'enseigne, il risque d'y avoir incohérence
comme tu dis,
très justement avec la main, voilà.
Exactement.
Donc, effectivement, c'est on en parle beaucoup aussi donc moi je suis plutôt orientée sur la stratégie, mais comme quoi ça rejoint effectivement le branding, ça fait aussi partie de la stratégie, quoi.
Exactement. Oui, c'est complètement ça. Donc, du coup, on a vu l'erreur numéro un, le manque de clarté, de cohérence. Et la troisième, du coup, c'est le manque de constance. Donc, le manque de constance, c'est le fait d'être régulier. En fait, c'est important lorsque vous avez une marque d'être hyper régulier, que ce soit, il faut toujours avoir le même message, il faut toujours avoir le même type de visuel, les mêmes couleurs. Ça, je vois souvent, un coup c'est bleu, un coup c'est vert, un coup c'est jaune, la même typo et aussi le même vocabulaire, la même manière de s'exprimer, le même ton de marque. Parce qu'en fait, d'être constant, c'est une preuve de professionnalisme. Ça rassure et ça donne confiance. Et en fait, si vous voulez que vos potentiels clients achètent chez vous, il faut qu'ils aient confiance en vous. Et ça passe par votre branding. Donc, du coup, le manque de constance, c'est la troisième erreur. Et je voulais rajouter une quatrième erreur. C'est ce que j'appellerais l'ego branding. En fait, on entend beaucoup parler que parler de soi dans ses contenus, c'est bien, ça suscite l'attachement de son audience, etc.
Ça va me plaire ce que tu vas dire là, je sais.
Bon, on va voir. Mais du coup, c'est super de parler de soi parce que si dans vos offres, vous proposez une transformation que vous avez déjà vous-même vécue, c'est bien d'en parler parce que vos potentiels clients, ils vont vouloir vivre la même chose avec vous. Donc, avec votre histoire, vous allez réussir à charger émotionnellement vos offres et une audience qui est connectée émotionnellement avec une marque, elle est plus à même d'acheter chez elle. Et d'ailleurs, utiliser son histoire pour soutenir sa marque, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Mais en fait, l'erreur, c'est de faire de l'ego branding. Donc, l'ego branding, il faut savoir que les gens, ils veulent du contenu qui soit éducatif, du contenu qui soit inspirant, du contenu qui soit divertissant. Donc, il faut faire attention. Si vous parlez de vous, si vous parlez de vos vacances, si vous parlez de vos enfants, il faut qu'il y ait un message, qu'il y ait un lien avec ça, que vos vacances, par exemple, aient un lien avec le message que vous souhaitez faire passer avec votre marque ou avec les offres que vous proposez. Donc, c'est bien de partager de soi, mais il faut toujours utiliser son histoire pour soutenir un message que l'on souhaite faire passer ou soutenir ses offres. Donc, il doit toujours, en fait, avoir un enseignement derrière chaque contenu qu'on poste, que ce soit en blog, podcast, dans ses stories, dans ses posts, Instagram, etc. Ouais. Donc voilà, l'ego branding.
Alors non, c'est hyper hyper important parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de capter la frontière entre je parle de moi, mais effectivement, et de faire comprendre que ça doit être à destination de son client idéal.
Voilà, exactement.
Enfin voilà, ça doit être centré sur le client, lui montrer du coup peut-être que si moi je suis passée par là, que j'ai trouvé des solutions, bah c'est aussi possible pour lui. Ou alors effectivement de partager quelque chose du quotidien, mais avec, comme tu le disais très justement, un enseignement. Je pense par exemple hier, j'ai posté, c'est très rare sur mon compte, une photo de mon fils, mais le message était voilà. Je peux profiter de ce temps-là parce que je suis indépendante, sous-entendu aussi parce que j'encourage les profs de yoga à travailler à leur compte pour elles, pour eux, etc. Et que du coup, je peux fixer mes propres règles du jeu, mon propre temps de travail et ne pas être soumis à des cours fixes ou autres, etc. Donc effectivement, il y avait un lien et une piste de réflexion en fait pour mon audience qui sont les profs de yoga, à leur dire bah voilà, si toi aussi t'es indépendante, t'es yogipreneur, tu vas pouvoir organiser ton temps en fonction de ton énergie, en fonction de tes priorités, en fonction de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile faire passer ce message. Et j'aime bien du coup ton terme d'ego branding versus aussi personal branding qui est important pour soutenir sa marque. Et moi voilà, je le retransmets dans le fait que quand on parle de soi, effectivement, ça doit être avec un enseignement ou avec une valeur ajoutée, toujours en pensant à notre client, à notre audience, ce que ça va lui apporter. Ouais. Voilà.
Et c'est ce qu'ils recherchent surtout. Parce que toi et tes clients recherchent sûrement la liberté, etc., en proposant leur offre en ligne. Et toi, tu as réussi à faire ça et tu l'enseignes à ton tour et tu montres ce que ça t'apporte, les bénéfices. Que ça t'a apporté. Tu parles pas juste de ton offre, tu parles des bénéfices.
Et je dirais que c'est encore plus vrai quand on démarre, quand on construit son audience et quand on veut se faire connaître. Parce qu'effectivement, plus on avance, plus les gens sont attirés quand même par ce qu'on fait de manière plus naturelle, ont plus envie de nous connaître, même si c'est pas toujours effectivement au service de notre marque. Mais alors au début, non, les gens ils veulent juste qu'est-ce que t'as à m'apporter en fait. C'est très égoïste, mais c'est comme ça. Enfin
c'est comme
voilà,
ça.
Quand on commence à suivre quelqu'un, c'est ok, en quoi tu vas répondre à ma problématique, en quoi tu vas m'apporter des solutions, etc. Et donc après avec le temps, on peut peut-être se permettre voilà de partager des choses. Avec un objectif derrière un petit peu moins business, on va dire, mais voilà, au début, c'est juste incontournable quoi d'être au service de son
exactement.
Audience.
Exactement, exactement. Toujours le contenu orienté vers son audience cible.
C'est ça, customer centric. Du coup, alors on a vu la clarté, la cohérence, la constance. Donc effectivement, pour la constance aussi, ça reprend un peu les points d'une ligne éditoriale. Hein. Effectivement, quel ton je vais utiliser, quel langage je vais utiliser, quelle va être ma régularité, à pas confondre avec forcément poster trop ou tout le temps ou autre, mais en tout cas par contre être régulière et constante. Donc ça c'est super intéressant. Et du coup, t'as dit aussi un autre petit mot magique qu'on entend souvent et peut-être qu'on peut développer, c'est le personal branding. Alors en quoi justement le personal branding, c'est une bonne idée quand on est prof de yoga.
Et du coup, comme je vous le disais avant, donc le personal branding, en fait, c'est le fait d'utiliser sa marque personnelle au profit de son activité. Ça veut dire que c'est nous qui allons être le symbole de notre marque. Nous, notre personne, notre histoire, nos valeurs, nos convictions, etc. Donc, c'est important quand on fait du personal branding, du coup, de parler de soi, de montrer les coulisses, de partager ses valeurs, de partager son histoire avec le yoga. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais, si vous avez grâce au yoga vécu une transformation et qu'à présent vous l'enseignez à d'autres personnes, et ben du coup de raconter au travers de vos contenus ce que ça vous a apporté, comment ça a changé votre vie, ben ça va inspirer d'autres personnes, ça va leur donner envie d'arriver au même résultat que vous avez déjà atteint, et ben du coup ça va les inciter à travailler avec vous pour ben justement atteindre cet état, je sais pas, de plénitude que vous avez atteint grâce au yoga. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant d'utiliser le personal branding pour une prof de yoga.
Et alors, si je démarre justement dans la construction de ma marque, dans la construction de mon branding, oui, et que je veux aller vers un personal branding, alors par où je commence?
Alors, déjà, moi, j'avais envie de parler d'une notion que j'aime beaucoup utiliser avec mes clients, qui est le concept du branding holistique. Donc, je pense que ça, c'est un mot qui vous parle beaucoup, holos, le tout, etc. De considérer sa marque comme un tout. En fait, vous l'avez bien compris, là, depuis tout à l'heure qu'on parle avec Cécile, le branding, ce n'est pas qu'un logo et une palette de couleurs.
Ah oui.
C'est, et voilà, il faut quand même... C'est pas juste ce qu'on voit, en fait. Donc, moi, j'ai une approche, on va dire, holistique de la construction de la marque, parce qu'on va pas juste se concentrer sur la partie visuelle, mais on va aussi se concentrer sur votre ADN, l'essence même de votre marque, votre message, la place que vous avez sur votre marché, la manière dont vous communiquez, etc. Et il y a une image que j'aime bien prendre pour illustrer ce qu'est le branding et pour comprendre en fait quelle étape il va falloir suivre pour construire son branding quand on démarre, c'est l'image de l'iceberg. Donc, imaginez un iceberg, vous avez une partie qui est hors de l'eau. Donc, c'est la partie que l'on voit. Donc là, hors de l'eau, on a le logo, l'identité visuelle, donc votre style, vos couleurs, vos photos, vos typographies, etc. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Mais sous l'eau, la partie immergée, c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus grosse finalement, et c'est ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc au-dessus de l'eau, ce que l'on voit, et sous l'eau, ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et en fait là, quand on va travailler son travail de branding, il va falloir définir qui l'on est, ce que l'on fait, comment on le fait et comment on communique. Donc en gros, c'est un peu ça les étapes. Je vais rentrer dans les détails, mais il faut vraiment garder à l'image à l'esprit cette image de l'iceberg. Ça va vous aider, je pense, pour comprendre. Donc l'étape numéro 1, donc c'est qui l'on est. Donc il faut définir qui l'on est, l'ADN de sa marque. Il faut arriver à définir en fait ce qui nous différencie, son unicité, pour attirer des gens qui vont connecter avec nous. Et il faut aussi définir la place que l'on a envie de prendre en tant que prof de yoga sur le marché des profs de yoga. Donc ça passe par quoi? Donc c'est par exemple, il va falloir définir votre mission, vos valeurs, quelles sont les valeurs qui vous portent, ce qui vous démarque, quel est l'élève idéal que vous souhaitez adresser, quel est l'élève que vous adorez, avec lequel vous adorerez travailler, faire vraiment un portrait de votre élève idéal, et également la place que on veut prendre sur son marché, c'est-à-dire votre positionnement. Et le positionnement, si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec ce terme-là, c'est, il faut simplement se poser 3 questions pour savoir, bon, ok, c'est quoi mon positionnement? Donc, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je peux décrire ma marque en une phrase? La deuxième question que vous allez vous poser, c'est quel bénéfice va apporter ma marque à mon audience? Et la troisième question, c'est quelle est la personnalité de ma marque? Donc, si on reprend l'exemple de Netflix dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, comment décrire la marque Netflix en une phrase? Ben, c'est un abonnement mensuel de séries et de films en streaming. OK, une phrase hyper claire. OK, ça, on a compris. Ensuite, quel bénéfice Netflix apporte à son audience? Eh ben, c'est hyper rapide, c'est facile, c'est divertissant, il y a beaucoup de valeur dans les contenus, etc. Et ensuite, quelle est la personnalité de la marque Netflix? Ben, Netflix, c'est une marque hyper friendly, hyper conviviale. Donc voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 1, définir qui l'on est et définir la place que l'on souhaite prendre sur son marché. Donc,
je vois Marion à l'écran et je souris parce que c'est tout l'objet du premier module en fait dans Yogi Vizline. Et c'est bon, voilà, c'est là où on passe un petit peu de temps quand même, mais comme quoi c'est fondamental et essentiel dans les basiques, la base de son activité. Mais c'est vrai que ça paraît simple quand on le dit, Mais quand on travaille,
c'est très
sur,
dur. C'est, oui, très, c'est voilà. Très dur. Je le sais.
Donc, mes élèves se reconnaîtront aussi.
C'est dur, mais c'est pas insurmontable. Après, il faut vraiment se dire que on va pas trouver son branding comme ça du jour au lendemain. Oui. C'est tout un processus. Donc, il faut pas trop se stresser
ça
avec ça.
Ça s'affine aussi, ouais.
Voilà. Ça s'affine au fil du temps. Au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous préférez faire ça plutôt que ça. Vous allez vous rendre compte que vous préférez travailler avec telle personne plutôt que telle personne. Ça va s'affiner. Donc là, c'est voilà, on dégrossit, mais vraiment, c'est un travail sur le long terme. Donc
n'ayez pas peur.
Pas de crainte. Donc du coup, là, on a défini l'étape 1, donc qui l'on est. Et l'étape 2, c'est ce que l'on fait. Donc, ce que l'on fait, c'est votre offre, en fait. Et ici, il va falloir réussir à créer une offre avec des caractéristiques qui donnent de la valeur à vos clients et surtout définir comment votre offre, elle peut améliorer la vie de vos clients. Donc, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. On va reprendre Netflix. Netflix, les caractéristiques, ils ont, donc, ce sont des séries, des films, mais c'est aussi du contenu original qui est produit par eux-mêmes. C'est ça un peu qui fait leur valeur ajoutée. Et les bénéfices que ça apporte à ses clients, c'est du contenu qui est consommable rapidement. Des fois, il y a des séries de 20, 30 minutes, etc. Donc, c'est super pour les gens qui n'ont pas trop de temps à accorder à regarder un petit programme à la télé. C'est divertissant, c'est abordable et c'est hyper facile d'utilisation. Donc, voilà. Donc, la seconde étape, c'est ce que vous faites et bien définir votre offre avec ses caractéristiques et ses bénéfices. Donc, ensuite, on a fait qui l'on est, ce que l'on fait, et maintenant, c'est comment on le fait. Donc, comment on le fait? Donc, moi, il y a une citation que j'ai notée que je trouve super intéressante par rapport à ce sujet-là. C'est la citation dit, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc voilà, et ça, c'est bien de garder cette citation à l'esprit avec quand vous créez une marque et quand vous faites vivre votre marque, parce qu'il faut toujours penser à ce ressenti, à ce que vous faites ressentir à votre audience, aux émotions que vous avez suscitées chez votre audience. Donc là, comment ça se passe? Donc comment on le fait? C'est toute l'expérience client autour de votre marque. Donc ici, il va falloir arriver à créer une relation qui soit humaine, qui soit personnalisée, d'avoir des échanges sincères avec son audience, de mettre en place des actions peut-être pour accompagner vos clients vers le résultat promis. Si peut-être vous vendez un programme de yoga en ligne et que vous voyez que les clients ne sont pas très réguliers, envoyez un petit message, leur dire est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que je suis là pour t'aider, etc. Il faut vraiment arriver à créer une expérience utilisateur autour de votre marque, à vos clients, mais aussi à vos prospects. En fait, dès le moment où on a un premier contact avec votre marque, donc que ce soit sur votre site, sur votre compte Instagram, par téléphone, email, etc., il faut commencer à instaurer cette expérience. Il faut faire vivre une super expérience à toutes les personnes qui auront un contact avec votre marque, en fait, pour que vous restiez dans leur esprit. Donc voilà, étape 3, comment on le fait?
Ouais. Chouchouter le moindre abonné, le moindre contact, le moindre client, effectivement, ouais, c'est comment je lui apporte de la valeur tout au long du processus, de l'attention.
C'est ça.
C'est super important. C'est pas facile, hein.
C'est assez difficile.
C'est l'histoire de nos entreprises, hein. C'est de travailler tout le temps là-dessus, hein. C'est vraiment le fil rouge, quoi.
Hein, ça, c'est un processus continu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent au début, par manque de temps, mais que finalement, on va se rendre compte très vite qu'il faut l'instaurer parce que voilà, on va avoir parce qu'en plus pour la fidélisation, c'est top. Quelqu'un qui a vécu une super expérience avec vous, demain vous proposez, je sais pas, une retraite ou quelque chose comme ça, et il suivait déjà vos cours de yoga, ça va être votre premier client. Donc voilà, pour la fidélisation, c'est vraiment super.
C'est un petit peu ce qu'on travaille, enfin, dans l'expérience client, effectivement, avec toutes ces mails finalement qui peuvent partir en automatique. Donc
oui,
voilà, quand
exactement.
On travaille justement sur des tunnels, des séquences mails, des campagnes, etc. Enfin, en tout cas, dans Yogi Design, c'est un sujet que j'aborde. Alors, pas au tout début, parce qu'il faut aussi savoir lancer son offre, la promouvoir et la vendre. Mais in fine, voilà, c'est comment après je viens améliorer tout ça avec quelques mails automatiques, des séquences, des campagnes. Je suis toujours là, quoi, quand mon client s'en va, comment je peux me réadresser à lui.
Ouais, exactement. Voilà,
c'est tout ça, quoi. Donc, ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail en continu pour le coup. Mais à la base, c'est vrai que quand on réfléchit à l'offre qu'on va créer, justement, moi, j'aime bien aussi, on travaille pas que sur ce qu'on va enseigner, donc effectivement sur la transformation, mais aussi quels vont être les supports, en fait, les contours de mon offre. Est-ce qu'il va y avoir des lives? Est-ce qu'il va y avoir justement des mails? Est-ce qu'il va y avoir un groupe de soutien? Est-ce qu'il va y avoir, donc tout ça, ça compte aussi effectivement avant de lancer son offre, de réfléchir à tout ce.
Voilà, ça fait partie de l'expérience de votre client. Voilà. Donc là, on a fait les trois premières étapes. Il en reste encore deux. Donc la quatrième étape, c'est du coup comment vous communiquez, comment vous vous adressez à votre audience, à vos clients. Et en fait, il y a quelque chose qui est hyper important quand on crée une marque, c'est de lui assigner une personnalité. Parce qu'en fait, une personnalité qui est clairement définie, ça va générer de l'attachement chez son audience. Donc, qu'on ait une marque personnelle ou pas, hein, c'est très important d'assigner une personnalité à sa marque. Donc, c'est plus facile quand on travaille en personal branding. Mais pour ça, donc si par exemple, vous avez un studio et que vous ne travaillez pas en personal branding, que vous avez juste une marque, il existe un outil qui s'appelle les archétypes de marque. Donc, c'est un outil qui est utilisé par beaucoup de grandes entreprises. Et en fait, c'est un outil qui va vous aider à trouver la personnalité de votre marque. Et du moment que vous allez avoir une personnalité qui est clairement définie, ça va vachement vous aider en fait dans votre communication, dans votre manière de parler, dans votre manière d'écrire. Ça va servir un peu de fil rouge. Et les archétypes, c'est un outil qui a été développé par un psychologue et il existe 12 types de personnalités avec leurs traits de caractère qui leur sont propres. Et en fait, ça représente les archétypes, ça représente une sorte de symbolique qui est ancrée inconsciemment dans l'esprit des gens. Donc, avoir un archétype, c'est important parce que, bah, d'une part, ça permet d'humaniser la marque, de lui donner, donc du coup, comme je disais, une personnalité et à laquelle les clients ils vont pouvoir s'identifier. Et surtout, ça va vous servir de fil conducteur dans la manière dont vous allez communiquer auprès de votre audience. Vous allez toujours avoir du coup une communication constante parce que si votre personnalité c'est ça, ben vous allez toujours communiquer de cette manière-là. Donc, pour vous donner des exemples, en termes de personnalité, on a le séducteur, on a le héros,
l'ensorceleuse, la magicienne, je sais pas.
La magicienne, voilà.
C'est ça, la magicienne.
Ça, c'est ça. Ça c'est ma personnalité de marque, tu vois, la magicienne. La magicienne, c'est celle qui transforme, en fait. C'est celle qui permet aux clients d'atteindre ses rêves, ses aspirations, etc. Et par exemple Disney,
c'est un peu la mienne aussi.
C'est souvent celle des coachs et des accompagnants, des guides, etc. C'est souvent l'archétype de la magicienne. Donc il existe des quiz en ligne pour trouver son archétype.
Oui,
c'est compliqué.
Ouais.
Voilà. Et par exemple, pour prendre un exemple, Nike, par exemple. Il a complètement l'archétype du héros. Ils nous disent rien n'est impossible, etc. Dans leur pub, leur site internet, just do it. Voilà, leur message est toujours just do it. Et même l'énergie qui se dégage de leur communication, elle réveille en nous ce goût du challenge. Et en fait, Nike, ils sont super forts parce qu'ils vous donnent la possibilité de devenir le héros du coup de votre propre histoire grâce à leurs produits. Et donc dans toute leur communication, leur ton, etc., il y aura toujours ce truc de dépassement de soi, de vous pouvez le faire, vous êtes le héros, etc. Donc voilà, donc comme je le disais, l'archétype, ça va vraiment vous aider à trouver votre voix, votre ton et votre manière de communiquer. Donc voilà, donc ça c'était la quatrième étape. Et ensuite,
on arrive à la dernière étape.
Et l'étape la plus sympa, c'est l'étape créative, celle de la création de son identité visuelle. Donc du coup, vous voyez que ça arrive vraiment après tout un travail de stratégie, de marque, de fondation, etc. Donc là, on a bien travaillé qui l'on est, ce que l'on fait, comment l'on souhaite être perçu, etc. Et tout ça, il va falloir le retranscrire visuellement. Tous ces éléments, il va falloir les retranscrire visuellement. Donc, avec mes clients, la première chose qu'on travaille, c'est ce qu'on appelle la stratégie visuelle. Et pour ça, il y a un outil qui peut aider, c'est ce qu'on appelle le mood board. Donc, le mood board, c'est une planche d'inspiration dans laquelle on va venir épingler des photos, des couleurs, des tissus, des mots-clés, des citations, etc. Plein d'éléments qui dans lequel vous souhaitez être perçu, enfin l'univers que vous souhaitez avoir avec votre marque. Donc moi je sais que mes élèves m'ont dit oh là là Marion, mais comment, par où on commence quand on veut créer son mood board? Ok, je peux créer mon mood board, mais comment je fais et par où je commence? Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez un compte Pinterest, d'utiliser Pinterest, c'est super parce qu'il y a plein d'images d'inspiration et même des vidéos d'ailleurs dans Pinterest. Donc ça pareil, ça permet de s'ancrer dans un univers. Et vous créez un tableau que vous allez appeler mon mood board et vous allez commencer à épingler des photos, etc., des illustrations, des textes, etc. Et moi, ce que je conseille de faire, quand on ne sait pas par où commencer, c'est de vous poser deux questions. Déjà, quels sont, par exemple, les trois mots-clés qui vous définissent, vous, en tant que marque? Et quels sont les trois mots-clés qui vous différencient des autres marques? Donc, pour prendre mon exemple personnel, moi, quand je me suis dit, bon, OK, ma marque, quels sont des mots-clés qui définissent ma marque? Bon, bah, du coup, il y a la créativité, parce que bon, je suis designer. Il y a aussi la douceur, le bien-être, l'intuition, l'alignement. OK, donc ça, ce sont les mots-clés qui définissent ma marque. Et après, quels sont les mots-clés qui me différencient? Eh ben par exemple je fais du yoga. Il n'y a pas tous les designers qui font du yoga, je pense. Voilà, j'adore tout ce qui est pampa, etc. Les ombres des palmiers. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la spiritualité. Et en fait, quand j'ai commencé à créer mon mood board, ben les premières choses que j'ai tapées, ben ce sont ces mots clés. J'ai commencé à taper pampa, yoga. Puis après j'ai commencé à être attirée par des couleurs douces, etc. Et petit à petit, comme ça, en fait, j'ai réussi à me créer un univers visuel dans lequel ben, je me sentais bien et dans lequel, surtout, j'avais l'impression que mon audience cible allait se reconnaître. Parce que du coup, moi, je vise des gens qui sont dans le bien-être. Donc, il était important pour moi d'avoir un univers visuel qui reflète ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose que vous allez faire. C'est votre stratégie visuelle. Et ça, ça va vous aider ensuite. Ben, si vous postez des photos sur Instagram, etc., ben, ça va vous aider parce que vous aurez déjà votre univers visuel et toutes les photos que vous allez poster, vous allez vous référer à ce mood board et vous allez vous dire est-ce que c'est cohérent ou pas avec l'univers visuel que j'ai créé pour ma marque.
Bah d'ailleurs, après, sur Instagram, on peut faire le même travail. Parce que moi, je suis passée par là aussi. Là, quand j'ai travaillé sur ma marque, on peut refaire le même travail avec les banques de données d'images. On peut utiliser ces mêmes mots-clés, justement, pour aller récupérer des images qu'on va pouvoir justement utiliser pour ces posts Instagram et qui reflètent complètement.
Oui, voilà. Après, ça va vous aider, du coup, lorsque vous allez faire des recherches. Si vous n'utilisez pas vos photos personnelles, voilà. Donc, voilà.
Et
donc,
ça, c'est la première étape. Titre, en quoi ça différencie, pour bien comprendre, ben là, on voit bien que toi, effectivement, au milieu de tous les web designers, tu vas avoir une image, qui va connecter avec, effectivement, les gens dans le bien-être, les professions holistiques, etc., versus un web designer qui va peut-être avoir des couleurs beaucoup plus, rouges, des choses beaucoup plus corporate ou des choses beaucoup plus à, qui va s'adresser peut-être à des entrepreneurs informaticiens ou tu vois. Et donc, en fait, c'est pareil, hein, le milieu des web designers, il est aussi concurrentiel. Donc, on peut complètement faire le lien avec le milieu des profs de yoga. Et encore une fois, on ne s'adresse pas à tout le monde et notre identité visuelle va permettre de renvoyer ça. Mais comme, enfin, c'est pour montrer que, parce que ça pourrait paraître simple, toi, quand on regarde ton compte, t'es web designer, il y a tout un travail derrière de recherche sur des mots-clés, sur ce que tu veux inspirer, quoi, tu vois. On doit tous passer par là.
Justement, si vous allez sur mon compte, que vous regardez les tout premiers posts au tout début, quand je me suis lancée et que je n'avais pas encore cette notion de branding, ça n'a rien à voir. Et on voit très bien
l'évolution.
On voit très bien on voit très bien le jour où j'ai appris ce qu'était le branding. Il y a eu un gros changement. Il y a eu un très gros changement aussi dans mes demandes de devis. Parce qu'en fait, avant, j'avais des demandes de devis tous les mois, tous les deux mois, voire tous les trois mois. Et dès le moment où j'ai retravaillé mon branding, j'ai commencé à avoir des demandes de devis toutes les semaines. Et depuis, bah, ça, c'est bon, enfin, ça,
et
ça
t'avais
roule.
Déjà, t'avais déjà ta cible avant de retravailler ton branding, ou justement, alors, c'est en retravaillant ton branding que ça t'a permis d'affiner.
Ouais, voilà. En fait, c'est en travaillant sur ma stratégie de marque que j'ai découvert la notion de branding. Donc, en travaillant sur ma stratégie de marque, j'ai retravaillé ma cible. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus ciblée. Et ensuite, du coup, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé par la stratégie de marque. J'ai défini mon client idéal. Et ensuite, je me suis dit, comment je peux parler à ce client-là pour l'attirer. Et puis là, j'ai commencé à poster des logos de studios de yoga. J'ai commencé à faire des illustrations de profs de yoga, de personnes pratiquant le yoga, etc. Et bien là, du coup, ça a connecté directement avec des personnes qui étaient dans le milieu et c'est le genre de visuel qui leur parle. Et effectivement, les gens qui me contactaient me disaient « Ah, j'ai été attirée par votre feed, ça me parle beaucoup, ça m'a touchée, etc. » Donc voilà, donc bingo en fait. Le branding, c'est...
Mais comme
c'est
quoi, le client idéal, hein,
oui, c'est au cœur de tout.
À un moment donné, il y a pas de... C'est incontournable, quoi.
C'est, oui, pas c'est trop... C'est, il faut le faire, il faut vraiment le faire. Donc voilà. Donc du coup le mood board. Donc ça c'est la première chose quand vous allez commencer à créer votre identité visuelle et après vient le sujet de la palette de couleurs. Donc la palette de couleurs, souvent voilà, c'est un peu difficile, on sait pas trop quelle couleur etc serait le mieux etc. Donc là pareil pour la palette de couleurs, moi je vous invite à vous poser 3 questions. Quel adjectif définit votre marque ? Donc est-ce que votre marque est élégante ? Est-ce qu'elle est naturelle ? Est-ce qu'elle est énergique ? Est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle est chaleureuse? Voilà. Posez-vous une question sur l'adjectif. Ensuite, quelles sont les valeurs de votre marque? Des valeurs de bienveillance, de pleine conscience, d'accompagnement, etc. Et quel ressenti vous souhaitez avoir avec votre marque? Quelle émotion vous souhaitez transmettre avec votre marque? Et en fait, à partir de là, donc vous allez mettre ça sur papier. Il faut savoir que chaque couleur a une symbolique. Et en fonction de l'adjectif que vous avez choisi, des valeurs que vous avez choisies, etc., eh ben il y a certaines couleurs qui vont être plus adaptées que d'autres pour ça. Donc par exemple, moi j'ai par exemple le rose. Si vous aimez bien le rose c'est une couleur vraiment de douceur, de compassion. Le jaune, au contraire, c'est une couleur qui est vachement plus solaire. Il y a de la chaleur, de l'énergie, du bonheur. Le violet, c'est la sensibilité, l'intuition, la créativité. La on parle aussi de spiritualité, voilà, exactement, avec le violet. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez choisir vos couleurs, en fait, en fonction des mots-clés que vous avez définis pour illustrer votre marque. Et mon conseil, c'est vraiment de choisir 5 couleurs maximum, de aller 6, ne pas aller trop, de pas trop choisir de couleurs. Et dans ces 5 couleurs là, c'est bien d'avoir 2 couleurs principales, donc en fait qui vont être les couleurs phares de votre marque. C'est bien d'avoir 2 couleurs neutres. Les couleurs neutres, en fait, c'est celles que vous allez utiliser pour les fonds, le fond de votre site internet, le fond de vos posts Instagram, etc. Et enfin, la dernière couleur, c'est une couleur que moi j'appelle une couleur d'accent. Et en fait, c'est une couleur qui va permettre de faire le contraste sur des éléments particuliers. Par exemple, si vous avez un site internet, ce sera typiquement la couleur de vos boutons sur votre site internet.
D'appel à l'action,
Voilà, d'appel à l'action, exactement. Donc voilà pour la palette de couleurs. Donc du coup, pour l'identité visuelle, on a vu donc le mood board, la palette de couleurs, et ensuite vient le sujet des typographies. Donc pareil, les typographies, tout comme les couleurs, ça transmet des émotions. Donc il faut moi je conseille d'en choisir une pour le titre et une pour le corps, et pourquoi pas une complémentaire,
un peu plus
pour des signatures ou des choses comme ça.
J'aime bien moi aussi.
Voilà. Donc, le plus important, c'est de toujours avoir les mêmes typographies partout, sur tous vos supports, pour en fait garder ce qu'on disait tout à l'heure, cette cohérence, cette constance dans votre image de marque. Donc voilà, la typographie. Et après, quid du logo ? Est-ce qu'il faut un logo quand on lance sa marque, sachant qu'on n'est pas designer et que ça a quand même un budget ? Donc là, moi, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous pouvez complètement le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par un designer pour le faire. En tout cas, dans un premier temps, si en plus vous vous lancez, vous n'avez pas trop de budget. Et le logo, moi, je vous dirais qu'il n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, le logo, au final, c'est juste un symbole. Vous voyez que tout ce qu'on a... votre branding, votre univers de marque, c'est pas que votre logo au final. Et le logo, c'est juste, je sais plus, comme tu dis, chérie on the Sunday.
Ouais.
C'est comme ça que tu dis.
La cerise sur le Sunday, ouais.
La cerise sur le Sunday, voilà.
Mais je dis aussi dans ce cas-là que c'est un peu de la cosmétique en fait. C'est-à-dire pour moi, c'est pas essentiel quand on démarre, voilà. Mais c'est
exactement ça. Donc c'est exactement ça. Donc la cerise sur le Sunday. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le logo, c'est un symbole, si vous, par exemple, faites du personal branding, finalement, votre symbole, ça va être votre image, ça va être votre photo. Donc, finalement, c'est vous pouvez utiliser votre photo comme symbole pour votre marque en attendant de créer plus tard votre logo bien comme il faut, etc. Donc, voilà. Et je rajouterai juste un dernier point. Dans l'identité visuelle, il y a aussi vos photos personnelles. Et pour ça, le jour où vous réalisez vos photos, si par exemple vous passez par un photographe, eh ben donnez-lui votre document. Donc moi, il y a un document que je fais faire à mes élèves qui s'appelle le brand board. Et ce document, en fait, il résume tous vos éléments. Donc il va y avoir votre mood board, les typos que vous utilisez, les couleurs de votre palette de couleurs, etc. Votre logo, si vous en avez un. Et en fait, en donnant ce document à votre photographe, il va du coup faire des photos qui vont respecter votre branding. Et donc, du coup, les photos que vous allez avoir, ça sera en totale cohérence avec votre site, avec votre compte Instagram. Les couleurs, elles vont bien aller avec. L'ambiance qui se dégage des photos, c'est l'ambiance que voilà vous aurez souhaité avec votre marque. Et ça, il y a même des photographes qui sont personnalisés en personal branding. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça.
Ça, c'est, il y a des photographes spécialisés en personal branding et normalement, enfin, moi, je repense à l'épisode qu'on avait enregistré justement avec Delphine de Yoga Photorama et qui intervient aussi dans ma formation. Enfin, clairement, un bon photographe va vous le demander logiquement,
oui.
Ou en tout cas va
mettre
en place ce travail-là avant la session photo. Sinon, déjà, il y a un hic.
Il faut fuir. Sinon, il faut fuir.
Mais normalement, ça fait partie du brief
de son travail.
De
oui.
Commencer. Voilà. Enfin, en tout cas, Delphine qui fait des photos, effectivement, pour
elle fait comme ça.
Yoga,
oui.
C'est clair que c'est la base. Et voilà. Et logiquement, un vrai professionnel doit vous demander ces éléments-là en amont, effectivement, quoi.
D'accord.
Donc, c'est un travail qui sert pour sa marque. Qui sert tout. Enfin, c'est vrai qu'une fois qu'on a toutes ces fondations-là, c'est tellement plus facile de communiquer, ça donne envie, on sait dans quelle direction aller, on sait effectivement quel visuel choisir, quel type de photo faire. Enfin,
exactement.
C'est vrai que ça fluidifie quand même.
C'est tout le process.
Donc, forcément, puisque ça fluidifie, ça attire aussi naturellement et de manière un peu plus magnétique des clients, forcément.
D'autres personnes, exactement. Donc, si tu veux, on peut résumer toutes les étapes.
Allez,
ça,
résumons
pour celles qui, pour celles qui ont pas trop suivi. Donc, pour créer son branding, donc l'étape numéro un, c'est définir qui l'on est et la place que l'on veut prendre sur son marché. L'étape numéro deux, c'est créer une offre avec des caractéristiques qui donnent de la valeur au client et puis, du coup, définir comment l'offre elle peut améliorer la vie de ses clients. L'étape numéro trois, c'est de penser à toute l'expérience client autour de sa marque. L'étape numéro 4, donc, c'est de définir la manière dont vous allez communiquer, donc la personnalité de votre marque. Et là, c'est là où on a parlé des archétypes de marque qui peuvent vous aider. Mmh. Et l'étape numéro 5, qui est la partie la plus cool, c'est de créer votre identité visuelle. Voilà, donc voilà, vous avez toutes les étapes.
On a tout ce qu'il faut pour créer son branding en tant que
Exactement.
Prof de yoga. Peu importe que vous démarriez ou que vous soyez déjà prof, vous ayez déjà des offres, etc. Ben, c'est l'occasion justement de reprendre ces points-là, de faire un petit check-up, une petite audite et puis de retravailler tout ça. Et d'ailleurs, moi, j'en suis l'exemple. Hein. J'ai commencé évidemment ce travail-là au début de ma marque de YogiBiz. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, je suis venue repréciser ce branding, notamment avec le côté minimaliste, etc. Avec ce que je sais que je peux inspirer en termes de simplicité, et du coup c'est ce qui derrière me permet aussi d'aller faire mon site aujourd'hui et d'avoir quelque chose qui est vraiment 100% cohérent avec ma marque. Mais j'ai pas forcément voulu que tout soit parfait. Enfin, ça ne le sera jamais. C'est toujours évolutif, quoi. Oui. Donc, en fait, à n'importe quel moment, quand même, de son évolution, on peut retravailler ça. Il est toujours temps de le faire.
Oui, bien
et, sûr. Et du coup, eh bien, pour terminer cet épisode, alors merci déjà parce que tu nous as donné énormément de valeur. Et j'aime bien, beaucoup. Tu dois avoir un petit côté pita aussi, un peu comme moi. Les choses sont très claires et très... Voilà, droit
exactement.
Au but. Donc ça, inutile de dire que j'adore. Et je pense que mon audience aussi. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion, maintenant? Parce que si on a envie de te suivre, d'en savoir plus, de travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
bien sûr.
Et comment on fait?
Alors, moi, vous l'aurez compris, je suis beaucoup sur Instagram. Donc, mon nom sur Instagram, c'est Marion Web Design. Donc, comme ça s'écrit. Voilà. Et sinon, j'ai un site internet qui est mariansamuel.com, donc qui est le site... officiel. Mais sur Instagram, vous pouvez m'écrire, je suis connectée 24 heures sur 24. Voilà.
Ok. Et comment on fait pour travailler avec toi, du coup?
Alors, pour travailler avec moi, j'ai deux prestations. Donc, j'ai soit une prestation complètement sur mesure où je vous aide, du coup, à travailler toute votre branding, votre identité visuelle, créer votre site internet, créer des modèles pour vos posts Instagram, etc. Sinon, pour les personnes qui voudraient apprendre par eux-mêmes, j'ai créé, je lance une formation le 7 octobre prochain qui s'appellera Instaglam. Et c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre tout seul à créer votre branding et en suivant pas à pas mon process de designer. C'est exactement le process que j'applique aujourd'hui à mes clients. Et je vous ai tout filmé en vidéo, etc. Et je vais vous apprendre aussi à créer des posts qui donnent envie d'arrêter de scroller sur Instagram et qui permettent de se démarquer et de vous aider du coup à vous positionner en leader dans votre thématique. Donc on va voir, comme on a parlé là, toute la stratégie, l'identité visuelle, et on va déployer votre marque et votre branding sur Instagram. Voilà.
Super.
Donc toutes les infos sur mon site internet mariansamuel.com.
Super programme. Et écoute, merci encore mille fois Marion de m'avoir proposé cet épisode et j'en suis ravie parce que je suis sûre que c'est vraiment plein de valeur ajoutée pour mes profs de yoga, pour mon audience. Et puis j'espère donc te retrouver très vite et très bientôt.
Merci infiniment Cécile. À bientôt.
Bye bye, ciao.
Bye bye, ciao.
Si vous voulez vous créer une marque alignée et rayonnée sur Instagram, je vous invite à cliquer immédiatement dans les notes de l'épisode sur le lien pour retrouver la formation Instaglam de Marion qui sort le 7 octobre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager en story en nous taguant @yogibiscoaching, @marionwebdesign ou encore à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est le seul moyen pour nous de lire vos commentaires sur cet épisode et de savoir si l'épisode vous a été utile pour développer votre activité de yoga. Yogibiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.